Amen. Voilà, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 11. C'est vrai que la lecture va paraître un peu longue, mais c'est important de nous appuyer sur la parole de Dieu. Alors, Jean, chapitre 11, les versets 1 à 46. Et je demanderai.
Un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples: Retournons en Judée. Les disciples lui dirent: Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit: N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent: Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples: Allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: Ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit: Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit: Le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant: Elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit: Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent: Voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent: lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Et en disant cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit. Les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait.
Merci. Amen. Merci pour la lecture de ce passage. Nous connaissons bien cette histoire, l'histoire de Lazare qui est ressuscité par Jésus. Un miracle étonnant parce que le corps était déjà en décomposition depuis 4 jours. Hein? La sœur même, dit de fin, le dit. Dans ce passage, il y a ce verset qui est très court, ce verset qu'on dit qu'il est le plus court de la Bible, juste 2 mots, Jésus pleura. C'est sur cela que je voudrais m'entretenir ce matin, sur ce Jésus pleura. Pourquoi Jésus pleure-t-il devant la tombe de Lazare ? Pourquoi Jésus a-t-il versé les larmes dans ce moment bien précis? Si nous faisons une lecture rapide, nous pouvons avancer certains éléments qui vont caractériser l'humanité de Jésus, sa compassion, sa bonté. Alors on dira, Jésus pleure car il est triste d'avoir perdu son ami. Il nous est dit au verset 5, que Jésus aimait beaucoup Lazare et ses 2 sœurs. Et nous savons que dans d'autres passages, il est dit que Jésus, quand il était de passage dans la région de Béthanie, il logeait chez Marthe et Marie et chez Lazare. Donc c'était vraiment des amis, il y avait une amitié qui était là. On peut dire aussi qu'il est triste de voir cette affliction, ce chagrin, des 2 sœurs qui restent, Marthe et Marie. Et dans ce verset, Jésus pleura, on peut dire que, voilà, nous voyons dans ce verset vraiment le témoignage de l'empathie de Jésus face à la souffrance humaine. Bien que tous ces éléments soient vrais, et que Jésus les ait manifestés durant toute sa vie, dans des circonstances différentes, ils ne sont pas la raison des larmes de Jésus. Il y a une autre raison, il y a peut-être d'autres raisons qui ont fait que Jésus a pleuré à ce moment-là. Et pour s'en assurer, nous allons examiner un peu le texte. Bien sûr, on n'a pas vraiment tout le temps d'aller vraiment dans tous les détails, mais on va voir quelques-uns, en tout cas, pour démontrer que Jésus n'a pas pleuré parce que Lazare était mort. Déjà, le verset 3 et 4, nous voyons que les sœurs vont envoyer dire à Jésus que Lazare est malade, celui qu'il aime, Lazare est malade. Au verset 4, il nous est dit qu'après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Cela veut dire donc que pour Jésus, cette maladie ne va pas aboutir à la mort, mais elle va plutôt aboutir à la gloire de Dieu, à la révélation du Fils de Dieu. Alors, on peut se poser la question, est-ce que Jésus serait-il triste jusqu'à pleurer, car la gloire de Dieu va se manifester et que le Fils de Dieu va être glorifié? Ça n'a pas de sens. Jésus ne va pas pleurer parce que Dieu va être glorifié et que lui-même va être reconnu comme étant Fils de Dieu. Parce que Jésus, que cette maladie va conduire à la gloire de Dieu. Et face à la tombe de Lazare, on voit que Jésus pleure. Jésus ne va pas pleurer parce que la gloire de Dieu va se manifester. Donc, nous voyons que c'est vraiment un non-sens. Si nous allons plus loin, au verset 6, il nous est dit, « Lors donc il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. » Quand Jésus prend connaissance de la maladie de Lazare, il décide de rester encore 2 jours de plus où il était, pour arriver en fin de compte 4 jours plus tard à Béthanie. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'attitude de Jésus. Il ne court pas au secours de son ami lorsqu'il reçoit la nouvelle. Il traîne avant de partir. Il traîne avant de démarrer pour se rendre au chevet de son ami. Il va arriver 4 jours plus tard et devant la foule, il va pleurer. Comment pouvons-nous qualifier une telle attitude? Il ne vient pas au moment voulu, il traîne, et lorsqu'il arrive en retard, il se met à pleurer. N'est-ce pas qu'on va qualifier cette attitude d'hypocrisie? Alors, est-ce qu'on va dire, est-ce que Jésus était-il hypocrite? Non, bien entendu, bien sûr que non. À maintes reprises, Jésus va condamner l'hypocrisie, il va condamner cette attitude. Donc, nous devons encore exclure cette pensée. Au verset 11, il nous est dit, après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Quand Jésus part pour se rendre à Béthanie, il sait déjà à l'avance que Lazare est mort. Il n'y a donc pas d'effet de surprise quand il arrive sur place. Lorsqu'il arrive à Béthanie, il va rencontrer Lazare qui est mort. Mais Jésus le savait déjà avant de partir que Lazare était mort. Il connaît à l'avance ce qu'il va se passer. Et il sait très bien qu'en arrivant à Béthanie, il va rencontrer Lazare qui est mort, mais que lui-même va le ressusciter. Alors on va se dire, est-ce que Jésus faisait-il semblant de pleurer devant la tombe de Lazare? Est-ce que Jésus est un manipulateur? Est-ce que Jésus fait de la comédie? Bien sûr que non. Pourquoi Jésus pleure-t-il alors? Regardons encore le texte un peu plus loin. Dans toute cette lecture, nous voyons qu'il y a un décalage entre ce que Jésus dit et ce que l'entourage dit. Il y a un décalage entre le langage de Dieu et le langage des hommes. Jésus se trouve face à l'incompréhension entre ce qu'il affirme et ce que l'homme en déduit. Il y a un décalage de niveau. Jésus et les hommes ne sont pas sur la même longueur d'onde. Quand nous voyons au verset 4 que nous avons déjà vu, après avoir entendu cela, ce verset 4 nous dit, Jésus dit, cette maladie ne pointe à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Au verset 11, par ces paroles, il leur dit, notre ami dort, mais je vais le réveiller. Les disciples, que comprennent-ils ? Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Au verset 13, on nous dit, Jésus avait parlé de sa mort. Mais les disciples crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Un décalage. Jésus parle de la mort de Lazare. Les disciples ne comprennent pas qu'il parle vraiment de sa mort. Pour les disciples, il dort. Alors que Jésus leur a dit auparavant que cette maladie va servir à la gloire de Dieu, que Dieu va se manifester d'une façon spécifique et que le Fils de Dieu va être glorifié à travers ces circonstances. Les disciples ne comprennent pas. Alors Jésus est obligé de leur dire ouvertement, Lazare est mort. Verset 14. Divergence dans la compréhension. Si nous lisons les versets 20 à 27, nous pouvons voir aussi que là, il y a un problème entre Jésus et Marthe et même Marie. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, donc verset 20 et suivant, tandis que Marie se tenait assise à la maison, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus va lui dire, « Ton frère ressuscitera. » Elle répond, « Je sais, dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Mais lorsque Jésus lui dit « Ton frère ressuscitera », Jésus disait aujourd'hui même « Dans quelques instants, ton frère va ressusciter. » Marie, elle croit à la résurrection à la fin des temps, au jugement dernier. Encore là une incompréhension. Et Jésus est obligé de lui dire « Je suis la résurrection et la vie. » Celui qui croit en moi, quand même il sera mort, il vivra. Quiconque croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Marthe va lui dire, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. À ce moment-là, on croit que, ça y est, Marthe a bien compris, a saisi les choses. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Parce que plus loin, on va encore voir que Marthe n'a pas compris ce que Jésus voulait dire. Marthe est ici, non pas dans la foi, mais dans la croyance. Oui, je crois que tu es le Fils de Dieu qui doit venir dans le monde. Tu es le Messie qui doit venir dans le monde. Mais quel est le rôle du Messie? Elle ne connaît pas encore qui est Jésus. Elle est dans la croyance, elle n'est pas dans la foi. Lorsque Marie va arriver à son tour, on le voit au verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, elle dit encore la même chose comme sa sœur. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, et les Juifs qui étaient avec eux, qui pleuraient aussi. La parole de Dieu nous dit au verset 33, Jésus frémit en son esprit et fut tout ému. D'après donc la version que nous avons, la version seconde. Jésus fut tout ému. En réalité, lorsque nous lisons ce verset, je n'ai pas vraiment été vérifié dans d'autres versions, mais bien sûr, quand c'est traduit de cette manière, on va dire oui, Jésus va pleurer parce que Lazare est mort et que Jésus voit la souffrance qui est autour. Mais lorsqu'on nous dit que Jésus frémit en son esprit, en réalité, ce passage veut montrer que Jésus est en quelque sorte irrité. Jésus est irrité en son esprit. Et si nous allons rechercher le mot qui est traduit ici par « Jésus frémit en son esprit », le terme grec exactement a vraiment d'autres significations. Je vais citer ici quelques exemples. Ce mot peut être traduit par « recevoir des instructions précises » ou encore « donner un sérieux avertissement » ou encore « se fâcher, menacer, prendre un ton sévère, être atteint dans ses émotions, dans le sens d'être frustré ». Donc, dans ce passage, nous voyons que Jésus, lorsqu'il entend toutes ces choses, lorsqu'il voit toutes ces choses, il est atteint dans ses émotions, il est frustré, il est bousculé, il est vraiment atteint. En quelque sorte, on pourrait dire, Jésus est agacé dans son esprit. Voilà la signification exacte de ce passage. Jésus est irrité, il est agacé dans son esprit. On l'a vu à travers l'attitude des disciples, on le voit à travers l'attitude de Marthe ou de Marie. On voit que pourtant ils connaissaient bien Jésus. Ils ont vécu avec Jésus, mais on voit qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Quelque chose ne passe pas. Jésus n'est pas compris. Il essaie de faire passer un message, il n'est pas compris. Et lorsqu'il va être encore face à la tombe de Lazare, il y a encore les Juifs qui étaient là, qui entouraient, qui vont venir encore en rajouter une couche en quelque sorte. Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, lui, est-ce qu'il ne pouvait pas faire en sorte que Lazare ne meure pas? Jésus est irrité. Il est blessé au plus profond de son être. Il est bouleversé intérieurement. Ça, c'est la version seconde qui rapporte comme ça. Il est bouleversé. Donc, c'est quand même mieux. Et Jésus ne peut pas, donc, dominer un peu ses émotions. Et Jésus va pleurer. Jésus va pleurer. Pourquoi pleure-t-il? Pourquoi pleure-t-il? Le terme qui est utilisé ici encore pour pleurer est un mot particulier. Ce n'est pas le même mot qui est utilisé lorsque Marthe et Marie pleurent. Ce n'est pas le même mot qui est utilisé lorsque les Juifs pleurent. Lorsque les Juifs ou Marie et Marthe pleurent, c'est un autre mot. C'est le mot « klaio ». Donc, déplorer, pleurer sur quelqu'un, sur une chose. Tandis que le mot qui est utilisé lorsque Jésus pleure, et ce mot n'est utilisé que deux fois dans la Bible, c'est lorsqu'il s'agit de Jésus. Lorsque, dans ce passage-ci particulièrement, et dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 5, quand Jésus a versé des larmes, qu'il a pleuré avec des grands cris. Ici, nous voyons que lorsque Jésus pleure, c'est un autre mot. C'est le mot dakrio, qui veut dire pleurer, verser des larmes en raison d'une déchirure, d'une blessure. C'est un terme qui est utilisé aussi lorsqu'on saignait les arbres pour en retirer la sève, pour en retirer donc la résine, le suc. Donc on blesse l'arbre pour en récolter donc le jus de l'arbre. D'accord. C'est ce terme-là. Donc c'est ce terme qui est utilisé pour Jésus. Et Jésus pleure. Pourquoi ? Parce que il a été blessé. Il est blessé en quelque sorte, et ces pleurs viennent d'un saignement, en quelque sorte. Ce sont des pleurs qui viennent à travers une blessure. Non pas qui déplorent la mort de Lazare, parce que oui, ça n'a pas de sens, parce qu'il savait très bien qu'il allait le ressusciter. Donc, il n'allait pas commencer à faire semblant de pleurer. Donc, les pleurs de Jésus sont d'une autre nature, ont d'autres causes que tout simplement l'apitoiement sur la mort de Lazare. Jésus souffre plus profondément que cela. Jésus souffre d'une chose, et de ce qu'il souffre, et ici, c'est l'attitude qu'il vient de vivre à travers ses disciples, à travers Marthe, à travers Marie, à travers la foule qui est là, les Juifs qui est là, qui ne comprennent pas l'œuvre de Dieu. En fait, c'est ça, la souffrance de Jésus. Jésus pleure face à l'incrédulité qu'il rencontre. Voilà. Jésus pleure face à l'incrédulité qu'il rencontre à travers l'être humain. Il est atteint au plus profond de son être. Il est bouleversé, il est bousculé et il pleure. Il pleure sur la pauvreté spirituelle de ceux qui l'entourent. Il pleure à cause de cette incrédulité, et cette incrédulité a pour cause le péché. Jésus voit à travers cela le désastre que le péché a causé. Il voit l'œuvre du péché. Le péché qui va conduire à l'incrédulité, qui va conduire à la séparation de l'homme et de Dieu. L'homme ne croit pas à ce que Dieu dit, mais il préfère croire au mensonge qui est distillé par le diable. Et Jésus en pleure. Jésus en pleure. Il pleure parce que les hommes n'écoutent pas ce que Dieu dit. Les hommes écoutent plutôt ce que le diable dit. Et Jésus pleure. Voilà 3 ans que Jésus a passé avec eux et malgré tout, ils ne comprennent pas. Jésus va bientôt accomplir son sacrifice parce qu'après la résurrection de Lazare, quelques jours après, Jésus va être crucifié. Et Jésus, il voit qu'il arrive à son terme, au terme de sa mission, et que malgré tout, les gens ne comprennent pas encore ce qu'il est venu accomplir. Et Jésus pleure. L'incrédulité, c'est vraiment la pierre d'achoppement. L'incrédulité fait très mal au Seigneur. Parce que ce que Jésus est venu apporter, c'est justement que les hommes puissent croire en lui. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et qu'ils croient en celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais Jésus a été confronté tout au long de sa vie face à cette incrédulité. On le voit dans l'épître de Matthieu au chapitre 17, verset 17, que à un certain moment, et ce passage est rapporté dans les deux autres évangiles synoptiques, on voit que Jésus est face encore à ses disciples qui ne peuvent pas délivrer une personne. Et Jésus est irrité encore, on voit l'irritation de Jésus encore lorsqu'il va leur dire « Génération incrédule et perverse, hein, juste à quand serai-je avec vous? Juste à quand vous supporterai-je ?» Jésus est irrité jusqu'à traiter les disciples de génération incrédule et perverse. Jusqu'à quand je dois rester encore avec vous? Jusqu'à quand je dois vous supporter? Il y a de l'irritation, il y a encore de la blessure dans les paroles de Jésus. Jésus va pleurer. Et c'est ça la richesse du texte original, parce que nous perdons énormément, hein, dans les traductions. Nous passons à côté de beaucoup de choses importantes. Le verbe, lorsqu'il est utilisé, lorsqu'il est dit « Jésus pleura », voilà, pour nous, voilà, c'est le passé simple, Jésus pleura, voilà, c'est fait, c'est terminé, on passe à autre chose. Non, ici, dans le grec, la conjugaison est très très riche, hein, et le temps qui est utilisé ici, il est à ce qu'on appelle l'aoriste second. Donc, c'est un temps qui n'existe pas dans la conjugaison française, et dans d'autres conjugaisons d'ailleurs. L'aoriste second veut dire que c'est un temps qui n'est pas dans le temps. Donc, c'est comme si Jésus pleurait tout le temps. Ça ne se termine pas. Ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. Jésus est en train de pleurer tout le temps face à cette condition d'incrédulité. Jésus pleure tout le temps. Il n'a pas pleuré seulement au moment où Lazare est mort, à ce moment-là, mais Jésus pleure tout le temps. Il est face à cette incrédulité et Jésus en pleure. Jésus en pleure. Tout cela pour vous montrer aussi, frères et sœurs, aujourd'hui, nous, où en sommes-nous? Sommes-nous au stade des disciples, au stade de Marthe et Marie, au stade de cette foule des Juifs qui étaient là, qui ne comprenaient pas? Et sommes-nous toujours dans ce décalage? Lorsque Dieu dit quelque chose, nous sommes à une autre distance, à une autre hauteur. Nous sommes toujours en décalage par rapport à ce que Dieu dit. Qu'en est-il lorsque nous lisons la parole de Dieu? Est-ce que nous croyons la parole de Dieu telle qu'elle nous est annoncée? Ou alors nous sommes en décalage? Et si nous sommes en décalage, Jésus pleure. Jésus pleure sur notre état. Jésus pleure parce que nous ne le comprenons pas. Jésus pleure parce que nous ne sommes pas sa suite. Le cœur du Seigneur pleure. Il saigne. Il est dans la souffrance parce que nous sommes dans ce décalage. Frères et sœurs, le Seigneur nous a donné, nous a envoyé son Esprit Saint pour que justement nous puissions comprendre ce qu'il veut nous dire, pour que nous soyons en corrélation avec ce qu'il dit, pour que nous puissions adhérer à ce que Dieu dit. Et cela s'appelle la foi, non pas la croyance, mais la foi. La foi, c'est adhérer à ce que Dieu dit, qu'il n'y ait pas de décalage, qu'il n'y ait pas de malentendu. On a vu que dans tout ce rapport, dans ce texte, il n'y avait que des malentendus. Jésus ne veut pas de malentendus. Il veut que nous soyons en parfaite communion. Et pour que nous puissions comprendre ce que Dieu nous dit, nous devons justement rechercher ce face-à-face avec le Seigneur. Que le Saint-Esprit, que nous soyons en accord avec le Saint-Esprit. Non pas vivre dans des émotions, mais vivre dans la réalité spirituelle à travers l'Esprit de Dieu, à travers la parole de Dieu. Nous devons faire un. La parole de Dieu et notre esprit doivent faire un. Et c'est ainsi que nous pouvons être en communion avec le Père et avec le Fils et avec l'Esprit Saint. Le Seigneur voit notre pauvreté. Le Seigneur voit où nous en sommes. Et le Seigneur veut nous appeler à lui pour que nous puissions vraiment saisir ce qu'il veut accomplir en nous. Le Seigneur, il est venu accomplir une œuvre glorieuse, merveilleuse, et il veut que cela puisse se faire en chacun de nous. Alors, nous n'avons qu'à venir auprès de lui. Le Seigneur nous connaît. Le Seigneur est patient. Le Seigneur veut faire cette œuvre en nous. C'est à nous, tout simplement, à venir près de lui. Et il va accomplir cette œuvre en chacun de nous.